Eh bien, chers frères et sœurs, bonjour, chers amis, bonjour, soyez les bienvenus, que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il puisse mettre encore cet après-midi dans nos cœurs sa parole, que nous puissions vraiment être invités à aller à la rencontre de notre Seigneur, être inspirés par sa parole et surtout la mettre en pratique. La semaine dernière, nous avons abordé le sujet sur crucifie-le, vous vous souvenez ? Enfin, je l'espère en tout cas, pour ceux qui étaient là. Aujourd'hui, crucifié et ressuscité, c'est un peu la suite. Hein, j'ai voulu faire une continuité pour ne pas s'arrêter juste sur les accusations qu'a amené Jésus dans cette situation. Donc souvenez-vous, juste un petit rappel, Jésus il a été arrêté. Il a été conduit devant Pilate et puis devant d'autres hein, aussi pour être interrogé, écouté, mais pour être jugé. Et là, on a constaté que l'innocent qu'il était s'est retrouvé coupable et condamné à mort. Triste sort. Souvenez-vous ce qu'il a dit Pilate. Pilate leur dit, dans Matthieu 27, « Que ferais-je donc de Jésus ? Qu'est-ce que je vais faire de Jésus ? Qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit encore, mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, hein, surtout il voulait éviter la colère, la révolte, mais il voyait que le tumulte augmentait, il prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent de ce sang, hein, qu'il retombe sur vous, cela vous regarde, c'est vos histoires, c'est votre problème, c'est vos histoires. » Et tout le peuple répondit, « Eh bien, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Terrible, terrible comme phrase. Pourtant, Pilate, il avait essayé par trois fois de sauver Jésus. Il a reconnu son innocence. Mais finalement, le peuple crie tellement fort et incité et poussé par les souverains sacrificateurs, les principaux, ben en fait, ils ont eu le dessus, hein, ce qu'on appelle la voix du peuple a pris le dessus sur la raison de Pilate. Le peuple supporte la responsabilité de le condamner. Hein, mais Pilate aussi supporte cette responsabilité. Et ce n'est pas le fait de se laver les mains qui va ne pas l'éclabousser, ne pas le faire participer à ce jugement. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, Christ, il est écrit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Puis Pilate fait fouetter Jésus pour que l'Écriture s'accomplisse. Hein, dans Ésaïe 50, verset 6, hein, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui voulaient m'arracher la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et voire même aux crachats. » Alors Jésus a été flagellé. Un peu plus loin, nous voyons ce qui se passe. Hein, toujours dans Matthieu 27, alors Pilate le relâcha Barabbas, hein, un voleur, un bandit, un brigand qui était lui déjà condamné à mort. Hein. Et après avoir fait battre deux verges Jésus, il le livra pour être crucifié, il le livra aux soldats. Alors les soldats du gouverneur le conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, hein, toute la troupe, tous les soldats. Et là on voit que Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raya en disant « Salut, roi des Juifs !» Il crachait contre lui. Et il prenait le roseau et lui frappait la tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent du prétoire, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Je pense que Jésus avait tellement été battu qu'il avait perdu ses forces. Et là, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Ça ne devait pas être très bon au goût, je pense. Et là, après l'avoir crucifié, hein, vous savez en quoi consistait la crucifixion ? Il y avait une croix en bois, on prenait la personne, on l'allongeait dessus et on lui enfonçait des clous dans les poignets pour le percer, pour qu'il reste accroché au bois, et on lui perçait aussi les pieds pour qu'il reste cloué de la même manière, comme lorsqu'on met un clou pour accrocher un cadre, mais là c'est sur un humain. Puis après la croix était redressée, hein, et la personne restait là. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, hein, à chaque fois ce qui s'accomplit avait été annoncé. Il ne faut jamais l'oublier. Et là, ils se partagèrent ses vêtements, tirèrent au sort sa tunique, puis ils s'assirent autour et ils le gardèrent. Peut-être de peur qu'il ne se sauve. Enfin, en tout cas, ils ont monté, ou peut-être que quelqu'un l'emmène. En tout cas, ils l'ont gardé. Et pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors, révélateur ou une moquerie, ou je pense plus à une moquerie, mais quelque part, oui, Jésus est le roi des Juifs. Avec lui, fut crucifié deux brigands, un à sa gauche, un à sa droite. Juste avant d'en arriver là, hein, pendant ce chemin qui le mène au mont Golgotha, les passants l'injuriaient. Et puis à la croix aussi, les passants, la foule continuait à l'injurier. Et ils disaient, ah, toi là-haut, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, en disant, il sauve les autres, il ramène même les autres de la mort à la vie. Souvenez-vous de Lazare. Et là, eh ben, il ne peut pas se sauver lui-même. Et en plus, s'il est roi, qu'il descende de sa croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, et bien que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands, à côté de lui, l'insultaient de la même manière. Humainement parlant, ça devait être très très difficile, déjà physiquement, et puis entendre en fait que tout le monde était contre lui, avec, regarde, tout ce qu'il a fait pour eux. Qu'est-ce qui empêchait Jésus de descendre ? Sa volonté, rien ne pouvait l'empêcher de descendre, rien. Pas les clous, pas la croix, pas les soldats, pas les insultes. Jésus a été battu, humilié, injurié, traîné devant cette foule qu'il avait tant aimée, qu'il l'avait portée, qu'il l'avait guérie, qu'il l'avait nourrie, qu'il l'avait enseignée. Voilà ce que l'on reprochait à Jésus. Fin de l'histoire. Jésus est né, maintenant il est mort comme le commun des mortels, accroché à ce bois, à cette croix en bois, attendant juste que les heures passent et que la vie s'en va, ou s'en aille, comme le commun des mortels, jusqu'à ce que son corps ne bouge plus, et à un moment donné, Jésus a poussé un dernier cri, il a expiré, il a rendu son dernier souffle. Jean, chapitre 19, verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, juste quelques minutes avant, il dit, « Tout est accompli, et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus a arrêté de respirer sur cette croix? En général, on redescendait la croix, on enlevait les clous, et puis on prenait le cadavre et on s'en débarrassait. Mais là, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, pardon, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on casse les jambes, c'est marqué qu'on rompit, hein, mais c'est casser les jambes, hein, qu'on casse les jambes au crucifié pour qu'il meure plus vite, si jamais restait quand même un petit espoir de vie, hein, comme ça il ne pouvait plus respirer. Il y avait un phénomène physique qui fait que tant que le crucifié avait encore de la force dans les jambes, sa poitrine pouvait encore prendre de l'air. Mais lorsque les jambes étaient cassées, affaissé sur ses bras, il ne pouvait plus respirer. Et là, il mourait en quelques minutes. Donc il fallait qu'on leur casse les jambes pour être sûr qu'ils meurent et puis qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Donc ils ont commencé par les deux brigands. Et s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, pour être sûr quand même. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et encore une fois, ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Personne n'a cassé les jambes de Jésus. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Moi, je me dis que pour ceux qui connaissaient à l'époque les Écritures, je pense qu'à un moment donné, quelqu'un a dû faire un rapprochement. Ou peut-être étaient-ils tellement aveuglés par leur méchanceté qu'ils n'ont pas fait de rapprochement. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais il était resté en retrait, hein, il était resté en secret, et puis par crainte des Juifs, il alla voir Pilate et lui demanda la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. 100 livres, pardon, de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, il y avait un sépulcre. Hein. Un sépulcre, c'est là où on creusait pour faire un tombeau. Et c'était tout neuf. Il venait d'être fait. Et personne n'avait encore été mis dedans. Et c'est là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre est très proche. Et une lourde pierre fut roulée devant le tombeau. Et là, on se dit encore et encore, Jésus mort et sur cette croix, emmené, enrobé par la tradition, mis au sépulcre. Là, on voit tout le déroulement de la mort et de l'enterrement de Jésus. Et puis, jusqu'à ce que la pierre fût roulée, et là, tout le monde a dû se dire, c'est vraiment la fin. Tant que Jésus n'était pas dans le tombeau, on ne sait pas, il pouvait peut-être encore se passer quelque chose. Mais là, une fois que la pierre était roulée, c'est comme si on refermait le livre. Comme si on mettait un point à l'histoire. Et qu'est-ce que l'on voit après? Dans Matthieu, toujours Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dire. Et ils vont pas le lâcher, hein, Pilate, hein. En plus, ils appellent Pilate Seigneur. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en parlant de Jésus, a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. C'est quand même pas banal comme réaction. Hein? Qu'est-ce qu'ils avaient dit de Jésus? Tout un tas de bêtises, de mensonges. Ils voulaient s'en débarrasser. Mais en fait, ils le craignaient énormément. Et ils ont quand même bien écouté ce que Jésus disait. Mine de rien. Quand Jésus leur dit, vous faites tout ce que vous voulez, mais dans 3 jours, je reviens. Et là, je pense que ils voulaient pas prendre, entre guillemets, le risque de se dire, si jamais il avait raison, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, ils vont voir Pilate. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, donc qu'on mette les soldats, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Oui, forcément, il faut éviter le coup de théâtre, comme on dit. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et entre guillemets, on perdrait encore la face. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc la pierre était lourde, grosse, mais on l'a encore scellée. On remet un cadenas sur une porte blindée et on met des gardes devant pour éviter l'imposture, pour éviter que on vienne prendre le corps de Jésus. Et là, on voit que même mort, ils ont encore peur de Jésus. Peur de le voir revenir se venger, peut-être. Pilate est encore mis à contribution, et là, il leur dit, faites ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui gérez. Mais est-ce que cela s'est passé ainsi? Est-ce qu'au bout de 3 jours, Jésus a menti, parce que rien ne s'est passé, la pierre est scellée, les gardes sont là, et ça y est, c'est fini de chez fini. Mais rien ne se passe comme nous aurions pu l'imaginer, car Jésus va ressusciter. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu et de ses desseins envers nous, rien. Ni une croix, ni une mort, ni un tombeau, ni des verrous, ni des cadenas, ni des soldats, rien. Ni la crainte des chefs religieux, ni Pilate et son armée, rien. Deuxième partie de ce sujet d'aujourd'hui, ressusciter. Ressusciter. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Luc 24. Et là, on voit toute la teneur, toute la véracité, toute la réalité de Jean 3,16. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais croit en lui et la vie éternelle. Jésus a souffert à notre place. Il a pris nos péchés. Il a pris notre condamnation. Il nous a offert cette possibilité, cette opportunité, cette liberté de l'accepter ou de le rejeter. Voilà pourquoi Jésus est venu car Dieu nous a tant aimés qu'il a offert son Fils en sacrifice. Et dans Ésaïe, parce qu'on cite souvent Ésaïe dans ce passage sur Jésus, Ésaïe dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » C'était la volonté de Dieu. Et seul Jésus pouvait avoir et prendre cette attitude. Le lendemain, quelqu'un vit Jésus venant à lui et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Le gros avantage, si je peux utiliser ce mot, de ce texte, c'est que le salut ne s'achète pas. Le salut ne s'achète pas, c'est pas une question d'argent. Cela nous rappelle aussi que Jésus était sans tache et sans défaut. D'ailleurs, Pilate et les autres n'ont rien pu trouver. Et pour cause. Qui mieux que Jésus pourrait se taire devant les mauvais traitements, pouvait accepter cela? Qui mieux que Jésus pourrait être trouvé sans péché, pur comme un agneau? Qui aurait pu prendre sa place? Qui? Un de ses disciples? Lequel? Aucun. Son sacrifice sur la croix a servi de signe pour tous ceux qui ont voulu et qui veulent s'y purifier. L'histoire, aussi terrible qu'elle semblait être il y a quelques minutes, elle s'est pas arrêtée là. Jésus est mort sur la croix, certes, mais il est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité. Et ce n'est pas la fin en soi, mais c'est le commencement d'une vie nouvelle, d'un nouvel espoir, car Dieu, Esprit, allait remplir nos cœurs. Jésus est mort, mais il est ressuscité. La Pâque est accomplie, le sacrifice de l'agneau est accompli. Mais là, l'agneau, c'était Jésus. Le sang de Jésus versé sur la croix a écarté la mort pour nous, pour ceux qui l'acceptent. Notre corps retournera à la terre, car nous sommes poussière. Mais notre âme ira vers son Créateur. Pourtant, elle n'est pas évidente, hein, cette résurrection, hein, même si elle avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a fallu que Jésus soit brisé par la souffrance, toujours Ésaïe 53:10. Jésus lui-même avait averti ses disciples, avec un certain nombre de détails, hein, souvenez-nous, on en a parlé la dernière fois. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup, de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Rien n'a pu empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Rien. Nous pouvons lire toutes des quantités d'histoires qui ont fait que l'homme a voulu partir à gauche. Jésus lui a dit « Tu iras à droite » et l'homme est allé à droite parce que la parole de Dieu s'accomplit, quelles que soient les circonstances. Et aujourd'hui, je veux vraiment que nous ayons conscience et pris conscience que ce que Dieu dit dans sa parole, ça s'accomplit. Et que le sacrifice de Jésus, c'est pas qu'une histoire. C'est pas qu'un gars qui est venu, qui s'est promené 33 ans sur la terre, qu'il a raconté de belles histoires, il a fait des belles choses, ouais, c'est super. Et puis voilà, et puis c'est fini. Non, il y a quelque chose de plus grand derrière, plus grand derrière que cette histoire, il y a la réalité de la vie éternelle pour tous ceux qui mettent leur vie et leur confiance en Dieu. Il est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort, il a pris nos péchés. Ce n'est pas uniquement un acte de bravoure en disant « Eh, je suis Jésus le héros. Moi, j'étais crucifié, mais je suis revenu. » Ce n'est pas pour lui. Il ne l'a pas accompli pour lui, mais il l'a accompli pour chacun de nous. Je vous laisse cette parole pour aujourd'hui. Je vous invite à la semaine prochaine pour la continuer. Justement, cette résurrection, qu'est-ce que... Donc, c'est outre que c'est une réalité, mais après, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé juste après la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Les faits, les différents faits après, et puis le départ de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.